Place Info.
Bonsoir à la une, des pompiers qui voient rouge et manifestent à Paris. La majorité qui se divise sur la question du voile, le volte-face de Trump avec la Turquie et Notre-Dame de Paris 6 mois après. C'est dans Les Informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, et avec Xavier Couture, consultant audiovisuel. Il est dans les murs, il nous rejoint à l'instant. Venez avec nous, Xavier Couture, merci, installez-vous. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. C'est à ne plus rien y comprendre, des heures ont opposé. En fin de journée, des pompiers aux forces de l'ordre, place de la Nation à Paris et près du périphérique. Les soldats du feu manifestaient aujourd'hui dans la capitale pour dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance de leur profession. 7 à 10 000 pompiers, voyez, mobilisés selon leur syndicat. Voici ce témoignage dans la manif, peu avant que ça dégénère. Fred Bourgine, il est adjudant-chef dans le Finistère.
Depuis des années, on dénonce un manque criant d'effectifs et on ne nous écoute pas. Et là, on arrive à une situation où c'est vraiment, vraiment très compliqué. En caserne, on court après les effectifs. Il y a certains engins qui n'arrivent plus à partir faute de spécialité des gens qui sont en caserne. On est juste bon, en fait, à faire des voix pour nos hommes politiques quand ils viennent poser des médailles sur les cercueils. Mais nous, au jour le jour, on n'a rien du tout, aucune reconnaissance.
Voilà, oui, tout cela a fini. Porte de Vincennes avec des bombes lacrymogènes pour empêcher les pompiers d'investir le périphérique. Sophie de Ravinel, c'est le monde à l'envers.
Oui, c'est le monde à l'envers. C'est un manque de reconnaissance, comme le disait ce pompier. Une grande fatigue, une grande lassitude, et c'est vrai, des années épuisantes pour eux. Et ce qui est très paradoxal, c'est que d'habitude, dans certains quartiers, dans certaines zones compliquées, la police vient au secours des pompiers pour qu'ils puissent intervenir. Aujourd'hui, ils utilisent les canons à eau pour les calmer. C'est vraiment une grogne de plus sur le terrain, et dont ce serait bien passé, évidemment, l'exécutif.
Trois policiers blessés, 6 interpellations. Xavier Couture, ça fait un peu désordre.
Ouais, ce qui fait désordre, c'est l'immense lassitude, mais ce n'est pas que les pompiers, de tous les services publics qui sont au contact du citoyen, qui sont au contact de la difficulté de la société aujourd'hui. Alors, il y a eu, je crois, des policiers qui ont manifesté il n'y a pas très longtemps. Les gendarmes, on le dit qu'ils sont exaspérés, qu'ils n'en peuvent plus. Là, ce sont les pompiers qui, par définition, sont les soldats au service de la société. Donc, dès qu'elle a une souffrance qui est une souffrance civile, qui n'a rien à voir avec un maintien de l'ordre. Je trouve ça assez terrible de voir que la société dérive dans cette espèce d'angoisse collective où les officiers qui, d'une manière ou d'une autre, sont là pour défendre le corps social, en ont tellement ras-le-bol qu'ils en viennent à s'affronter les uns les autres.
Il faut rappeler que les pompiers sont régulièrement agressés, comme les policiers, quand ils interviennent dans certains quartiers, on va dire, difficiles. Sophie de Menton, il y a quelque chose d'absurde dans cette situation ?
C'est pas absurde, on a une société malade. Et franchement, ça en est le symptôme, et je trouve ça très grave. C'est-à-dire que on réagit contre tout ce qui symbolise l'autorité d'une façon ou d'une autre. C'est contre l'État, finalement. Ces quartiers dont vous parlez, les sujets sont toujours les mêmes, que ce soit les black box, que ce soit les pompiers qui sont refusés dans certains quartiers. Il y a même les médecins qui se font accompagner maintenant, qui ne peuvent plus arriver dans les quartiers. On a une société malade, et il y a un moment où il va falloir faire quelque chose. Malheureusement, si c'est par l'autorité, ce sera terrible, ce sera quasi une guerre civile. Et on ne se reprend pas nous-mêmes... Non, je pense que quand les pompiers, les gendarmes, la police, et si tout d'un coup on fait preuve d'autorité en disant maintenant ça suffit, ça va être dur.
Juste pour
Sophie
les pompiers...
Ravinel, puis Yasmina Jaffar, oui.
Oui, juste un tout petit mot. Il faut quand même rappeler qu'il y a déjà eu des manifestations de pompiers au mois de novembre dernier et qu'ils étaient plus nombreux encore. Donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau, mais je vous
Ce
suis
sur... Ce n'est pas tout à fait nouveau. Voilà. Vous avez raison de le rappeler. Marine Le Pen a brièvement rejoint les pompiers quand ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale. Elle a fait quelques selfies. Elle a déclaré la présidente du Rassemblement national. Lorsqu'un pouvoir politique en vient à lancer des policiers contre des pompiers, c'est que l'État est totalement effondré. Commentaire Yasmina Jaffar, c'est du pain béni pour le RN.
Oui, hein. Elle est toujours au bon endroit au bon moment. C'est incroyable. Elle est extrêmement bien renseignée. En tout cas, c'est une chasse aux électeurs à peine voilée. C'est évident. Mais ça, c'est Marine Le Pen. Par rapport aux pompiers, c'est vrai qu'il y a aussi les ambulanciers. En fait, on a le sentiment qu'il y a l'uniforme dans son ensemble qui est mis à mal et peu compris. Et l'uniforme sans distinction. Un ambulancier se fait attaquer, c'est assez courant. Il ne rentre plus dans des quartiers sensibles. De la même manière que les pompiers, et c'est très difficile, très dangereux, et pour obtenir cet emploi, ça demande des sacrifices absolus. Donc, oui. Comme si la population ne faisait plus du tout de différence entre un uniforme et un autre. Quoi.
Alors, je saisis au bon ce mot, Xavier Couture, les uniformes, ce sont les uniformes qui manifestent.
Oui, alors, les uniformes, tous les uniformes ne se ressemblent pas. L'uniforme d'ambulancier n'est pas celui d'un pompier. Je me permets juste de faire un mauvais jeu de mots sur Marine Le Pen qui vient au secours des Rouges, ce qui est quand même relativement étonnant vu son parcours politique.
Les Rouges sont venus parce que Jean-Luc Mélenchon, avec certains de ses députés, était aussi sur le terrain.
Oui, bon, alors donc, oublions la récupération politique par tous les extrémistes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont là que pour remettre un tout petit peu plus de kérosène sur le feu. Donc là, on va oublier ça, parce que c'est assez pitoyable et je trouve ça lamentable. En revanche, la souffrance, elle existe. C'est vrai que, c'est ce que je disais, la plupart de ceux qui portent un uniforme au nom de l'État sont arrivés à un degré d'exaspération et de lassitude qui est inquiétant, c'est vrai. Est-ce que la société est devenue plus dure? Sans doute. Est-ce qu'elle est devenue plus agressive? Évidemment. Est-ce que pour autant, cela nécessite que ces officiers, quelle que soit l'appartenance de leur corps, soient fondés à manifester avec autant de violence? Bien sûr que non. Simplement, il faut qu'il y ait une réponse politique. Encore une fois, la société aujourd'hui est dans une situation où la réponse politique s'impose et on ne peut pas laisser
Quelle réponse
des
Mais la, peut... colère, la colère vient de là, c'est parce que justement il n'y a aucune réponse.
Je pense qu'il y a une nécessité de réponse.
Oui, il y a une nécessité de réponse, mais je voudrais moi juste rebondir sur la question de l'uniforme, parce que je pense que là, la colère dans la société, elle ne se limite pas à l'administration ou à ceux qui portent un uniforme, et je vois aussi couver cette colère dans le milieu agricole en province, loin de ces zones bouillonnantes parisiennes ou de métropole. Et cette colère-là n'est pas moins importante et elle ne nous réserve pas moins de surprises, à mon avis, dans les mois à venir.
20h10 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel de l'info et vous, Jules Dequisse.
L'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, l'accès à son origine quand on est né d'un don de gamètes, ou encore la simplification des recherches sur des cellules sous-embryonnaires. Toutes ces mesures contenues dans la loi de bioéthique sont adoptées par les députés ce soir. L'Assemblée nationale vote pour ce projet de loi à une large majorité, 359 voix pour, 114 contre et 72 abstentions. Les syndicats de Conforama appellent à une grève des salariés. Ils dénoncent le montant des primes de licenciement présentées aujourd'hui par la direction. Elle prévoit de verser un forfait de 1 000 à 2 500 euros en fonction de l'ancienneté, en plus de ce que prévoit la loi. Une proposition honteuse, d'après les syndicats. L'enseigne d'ameublement compte supprimer 1 900 postes. 4 personnes sont toujours en garde à vue ce soir à Firminy, dans la Loire, près de Saint-Étienne. Les propriétaires et des employés de deux manèges impliqués dans un accident mortel hier soir à la fête foraine. Une jeune femme de 20 ans est encore à l'hôpital dans un état grave, alors qu'une autre de 23 ans n'a pas survécu à un choc entre deux attractions. L'Écosse veut un nouveau référendum sur l'indépendance dès l'année prochaine. Annonce ce soir de la première ministre du pays, Nicola Sturgeon. Elle estime que celui de 2014, qui a abouti à un maintien dans le Royaume-Uni, est devenu caduque avec le Brexit. À l'inverse du gouvernement anglais, le pouvoir en Écosse souhaite rester dans le giron de l'Union européenne. Et puis le Tour de France 2020 sera montagneux. Le tracé de la prochaine grande boucle, dévoilé aujourd'hui, passe par les 5 massifs français, 4 ascensions inédites et un départ à Nice le 27 juin, un peu plus tôt que d'habitude car il y a les Jeux Olympiques fin juillet.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Décidément, la controverse autour du voile envenime la vie politique jusqu'à diviser la majorité. Le Premier ministre, interpellé sur la question aujourd'hui dans l'hémicycle lors des QAG, les questions au gouvernement par le député Les Républicains du Var, Jean-Louis Masson, a réclamé une nouvelle loi. Eh bien, le Premier ministre a fait cette mise au point. On entend la question puis la réponse d'Edouard Philippe.
Nous vous demandons de sortir de l'ambiguïté. Seriez-vous prêt, oui ou non, à interdire le port du voile dans les sorties scolaires ?
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas aux parents d'élèves. C'est la loi. On, on peut porter, monsieur le député, vous le savez, un voile quand on accompagne une sortie scolaire. Mais on n'a pas le droit, vous le savez également, de faire de prosélytisme. Je ne pense pas, pour ma part, monsieur le député, que l'enjeu aujourd'hui, ce soit de faire une loi sur les accompagnants scolaires.
Yasmina Jaffar, cette affaire a démarré, on le sait, hein, au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec cette interpellation d'un élu RN, d'une femme voilée qui accompagne les enfants, etc. On en est toujours là, c'est mardi, ça passe désormais à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait un tel trouble aujourd'hui ?
C'est un trouble incroyable et ça devient une hystérie un peu assourdissante, mais depuis presque 30 ans. Et je crois même que cette affaire a démarré avec l'affiche du FCPE quand Monsieur Blanquer a dit de la même manière qu'il ne souhaitait pas que cette association laïque à la base permettre ce genre d'affiches pour promouvoir des sorties scolaires voilà accompagnées par des femmes voilées. Ça a commencé là et quelques jours après, il y a eu un attentat. Et on entend aujourd'hui sur différentes antennes, que ce soit Monsieur Oudoul ou Madame Morano, faire le lien direct avec ces deux événements, alors qu'il n'y a aucun lien à faire et que cette hystérie là devient assez incroyable. Et les paroles d'Edouard Philippe sont assez claires, et ça a mis un peu trop de temps, je trouve, pour que ce soit aussi clair. Là, il sonne la fin de la récréation.
Alors, et... Oui, vous dites que certains font le lien, mais il y a autre chose aussi, Sophie Dravinel, c'est cette division au sein de la majorité. On va faire simple, hein, d'un côté Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui dit au fond, pas si grave, pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à des sorties scolaires, quelque part, ce serait là un élément d'intégration. Et de l'autre, Jean-Michel Blanquer qui ferme le banc et qui dit « Ah non, je veux une nation unie sans communautarisme, fidèle à notre culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, pas souhaitable que ces voiles circulent. Où est-ce que doit être la limite, selon vous ?»
Alors en fait, la limite, elle est difficile parce qu'en fait, c'est un vrai, enfin, elle est difficile à poser au sein de la majorité parce qu'il y a une vraie, c'est surtout le conflit qu'il y a eu entre Aurélien Taquet et
Aurélien Taché, oui, le député du Val d'Oise.
Voilà, le député du Val d'Oise, c'est l'aile gauche. Et en fait, c'est un peu d'ailleurs comme Laetitia Avia, toute cette aile gauche traditionnelle au sein de La République En Marche. Et il y a eu cette interview. Alors, il y a eu un rétropédalage ce mardi soir d'Aurélien Taché, mais il y avait cette interview qui était quand même très très rude vis-à-vis du ministre Blanquer. Qui,
alors, je précise, ce député, dans les colonnes du Point, estimait que les propos du ministre de l'Éducation amenaient de la confusion. Je le cite. Aurélien Taché, et a déploré que le Rassemblement National, a-t-il dit, puisse récupérer les mots de Jean-Michel Blanquer. Voilà pour
absolument
la précision.
Et tout ça venait effectivement de cette fédération de parents d'élèves qui, dans un de ses visuels, avait placé une femme voilée, un voile orange assez pudique. Mais parce qu'il fallait voir aussi qu'il y avait des élections au sein de cette fédération de parents d'élèves qui est un peu mise en difficulté, et que donc il y a eu cette résurgence de tensions qui existe depuis très longtemps au sein de La République En Marche, voire depuis leur fondation, entre cette aile gauche et cette aile droite, parce que M. Blanquer, en fait, il ne fait que reprendre ce qu'avait tenté de faire Luc Châtel en 2013, il me semble, où il avait effectivement eu déjà une réponse du Conseil d'État disant non, on ne peut pas interdire les voiles en sortie d'école, etc. Et donc, c'est la division aile droite, aile gauche, avec, à mon avis, un même souci commun de vouloir intégrer ces personnes voilées dans la société française, mais une vision radicalement différente de la manière d'y parvenir.
Xavier Couture, c'est toujours la même question. Depuis la loi du 15 mars 2004, on n'en sort pas.
Ben, on n'en sort pas et en même temps, on devrait en sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un débat ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour des raisons électoralistes dans une fédération de parents d'élèves, est-ce que pour des raisons de base politique, il est raisonnable de mettre en regard ce qu'est le port du voile par une femme qui accompagne, par ailleurs, elle va faire l'accompagnement d'une classe, et puis les véritables problématiques qui se posent dans notre relation à l'islam lorsqu'elle est critique, et je veux parler, par exemple, de la libération des terroristes djihadistes qui aujourd'hui, parce qu'on a lâché les Kurdes, vont nous revenir dans la figure. Donc, je pense qu'on pose le problème de manière erronée. Il y a une large, très large majorité, il y a encore, pourvu que ça dure, une très large majorité des musulmans qui, en France, ont envie de s'intégrer dans la société. Ils ont une religion qui amène les femmes à porter un voile. De grâce, ne mettons pas ce sujet comme étant un moteur de l'exclusion de tous les musulmans qui veulent s'intégrer, s'assimiler dans notre société. Tout cela pour faire plaisir à je ne sais quels militants qui n'ont rien compris, sachant qu'il y a une loi. Et il se trouve que Edouard Philippe l'a rappelé, il y a une loi, pas de signe distinctif sur les élèves à l'école. Très bien, il n'y a pas d'interdiction à ce que les parents portent une voile
à condition seulement que ce voile, le port de ce voile, ne soit pas prosélyte.
Je suis désolée, vous Sophie êtes complètement à côté de la plaque. Attendez, la réalité, c'est qu'il faudrait définir ce que signifie le voile. Et le problème est dans la définition du voile. Ce voile est un asservissement des femmes. C'est le signe qu'elles sont effectivement dominées. Enfin, on est entre femmes ici, on le sait.
Là, vous êtes sur la ligne de Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence. Vous êtes sur la liste du ministre.
Enfin, il faut interdire les musulmans en France.
Non, mais pourquoi vous mélangez tout? Je n'ai jamais attaqué quoi que ce soit. Je n'attaque pas les musulmans.
Si vous considérez que le voile est une interdiction à un asservissement des femmes, vous remettez en cause une religion.
Il y a combien de musulmans? Le pourcentage, je crois qu'il y a un quart des musulmans, un quart des femmes musulmanes qui portent le voile. Elles sont de bonnes musulmanes, les autres. Vous êtes en train de dire que quoi? Et c'est pas du tout ça.
Je veux
dire,
c'est un symbole politique. Des mauvaises musulmanes ou des mauvaises citoyennes.
C'est vous qui sous-entendez que le voile n'a pas d'importance et que ce n'est pas le symbole d'un asservissement des femmes. Ça l'est. Il y a des femmes qui se battent dans le monde.
Il faudrait interdire le voile à 100% dans l'espace public.
J'ai très envie que ces musulmans soient parfaitement intégrés. Il ne s'agit pas une seconde de les critiquer. Je pense que ce sujet du voile est un symbole politique. Un symbole politique et un symbole de la libération des femmes. Je suis une femme.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien, je pense que d'abord, il faut réfléchir à ça très sérieusement. Et je pense qu'il n'y a pas la place pour des femmes voilées.
Donc, vous empêchez les femmes de porter un voile dans l'espace public.
Écoutez, il y a des femmes qui se battent pour être libres et ne pas le porter dans la plupart des pays du monde. Alors, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. On ne va pas les laisser tomber.
Oui, mais vous voulez prendre des obligations.
Attendez, je reprends la question de Xavier Couture. Sophie de Menton, qu'est-ce que vous suggérez pour mettre fin à cette controverse permanente qui dure depuis des décennies?
C'est une controverse permanente parce que c'est un vrai sujet. Je crois qu'il faudrait vraiment débattre sur ce symbole du voile et non pas attaquer les musulmans en tant que tels.
Outre le débat, de façon légale, qu'est-ce que vous proposez?
J'aimerais bien, si quelqu'un savait quoi proposer.
Alors moi, je vous propose
je suis assez mal à l'aise.
Une pause.
Une pause, parce qu'il est 20h et 20 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequis, si on revient sur la question.
Vous êtes gentil de vous dire.
L'Assemblée nationale vote à la quasi-unanimité une loi qui rend possible la pose d'un bracelet anti-rapprochement sur un conjoint violent. Elle entend aussi renforcer le dispositif téléphone grave danger qui permet de lancer des appels d'urgence. Ces mesures pour lutter contre les féminicides doivent arriver au Sénat pour entrer en vigueur au début de l'année prochaine. Quelques tensions ce soir en fin de cortège de la manifestation des pompiers professionnels à Paris. Ils étaient plusieurs milliers à se mobiliser. En grève depuis le mois de juin, ils demandent davantage de moyens et une hausse de leurs primes. Ils annoncent prolonger de 2 mois leur préavis de grève. La ville, l'agglomération, le département, toutes les collectivités locales concernées par les difficultés du site General Electric de Belfort demandent réparation à l'État. Elles lui réclament 12 millions d'euros car elles ont investi après la promesse de création d'un millier d'emplois par General Electric. Mais l'industriel américain n'a pas respecté les termes de l'accord signé avec le gouvernement en 2014 lors du rachat d'Alstom. Il prévoit au contraire de supprimer plus de 700 postes. La Turquie poursuivra son opération en Syrie avec ou sans le soutien du monde, prévient la présidence turque ce soir. Les États-Unis annoncent que le vice-président Mike Pence va se rendre à Ankara dans les prochaines heures. L'offensive contre les Kurdes est toujours au cœur des discussions diplomatiques des grands de ce monde. Et dans le même temps, Médecins sans frontières annonce évacuer ses équipes humanitaires dans le nord-est de la Syrie pour des raisons de sécurité. L'UEFA, qui dirige le football européen, ouvre une procédure contre la Bulgarie après les incidents racistes hier à Sofia lors du match contre l'Angleterre. Les joueurs noirs pris à partie par le public. Le patron de la Fédération bulgare annonce lui sa démission.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous poursuivons cet échange très détendu sur la question du voile pour l'eurodéputé Jordan Bardella du Rassemblement National, invité de France Info ce matin. Il faut changer la loi.
D'abord, cette affaire, on voit bien qu'elle crée une gêne dans l'ensemble de la classe politique. Parce que, en réalité, sur le fond, tout le monde est d'accord avec nous.
Raison, mais la loi est faite pour être changée.
Et je pense qu'on a atteint un point tel de communautarisation aujourd'hui de la société française, et même, disons-le, de partition dans un certain nombre de banlieues, dans un certain nombre de territoires, qu'il nous apparaît aujourd'hui nécessaire de légiférer et d'élargir la loi qui a été votée en 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école à l'ensemble de la sphère publique.
Yasmina Jaffar, en 2004, la loi de 1905 paraissait un petit peu ancienne, un peu dépassée. Est-ce que là, aujourd'hui, celle de 2004, c'est la même chose ?
Non, la loi qui existe, c'est le visage caché. Là, nous avons une réponse. Ensuite, l'autre voile, vous parliez d'une définition du voile. Il y a le voile qui cache simplement les cheveux et qui se porte de façon culturelle, comme le font beaucoup de grand-mères et de mamans. Et puis après, il y a en effet un voile politique, mais qui est cette fois celui qui cache le visage. Et donc, nous l'avons, la définition. Et si nous arrêtons maintenant à toute femme susceptible de porter le voile dans cette société, alors nous sommes absolument perdus, si c'est la seule réponse que nous avons, alors que finalement, tout est déjà dans la loi. Donc, par contre, il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à ce qui se dit en ce moment entre Jean-Michel Blanquer et, par exemple, Édouard Philippe, c'est que Jean-Michel Blanquer dit qu'il n'est pas... Enfin, il ne souhaiterait pas, parce que justement, il y a un trouble, parce que justement, c'est assez flou et que rien n'est suffisamment clair pour pouvoir... la position déjà du président de la République.
Vous dites que la loi est très claire.
Non, la loi est claire, mais parce qu'il ne faut pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans les quartiers, parce que ça existe. Il y a aussi des petites filles qui
vont pas... Qu'on se fait agresser quand on n'est pas voilé dans certains quartiers.
C'est pas général. Il y a une tendance communautariste dans certains quartiers avec des petites filles et des petits garçons qui sont parfois des petites filles qui ne vont pas à l'école parce que ça n'est pas la même chose que pour un garçon. Exactement.
Et puis il y a des petites filles, effectivement, qui sont scolarisées plus tard.
Exactement. Mais juste, je voudrais ajouter quelque chose sur un exemple. Quand Monsieur Castaner l'a dit avec le front, là, vous savez, au Sénat, il a parlé de la tache sur le front pour les signes. Ou alors simplement un petit garçon qui ne serre pas la main à une petite fille, ça n'est pas. Enfin là, c'est absolument jeter le trouble sur la conversation parce que nous sommes dans des moments compliqués suite à ce qui s'est passé à la préfecture. Voilà. Et je ne veux pas laisser ces choses-là se faire lier par Nadine Morano ou d'autres. Voilà.
Sophie Dravinel, est-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, doit aujourd'hui s'emparer de ce sujet de la laïcité ?
Il a d'ailleurs, je crois, l'intention de le faire. Il a parlé de façon très claire lors de l'hommage rendu aux quatre policiers qui ont été tués en parlant de cet islam dévoyé. Il parlait justement de façon très claire.
De l'hydre islamiste.
Voilà, de l'hydre islamiste. C'est-à-dire qu'il a dit loin de moi l'idée de vouloir ostraciser une confession religieuse, loin de moi, etc. Et il voulait juste dénoncer ceux qui entraîne loin de la voie de voilà. Mais il est très attendu sur cette question de l'islam depuis très longtemps. Il a repoussé son intervention puisque sous Hollande il était perçu comme celui qui s'opposait à Manuel Valls sur ces sujets-là. Il a voulu profiter de ce créneau qu'il cultive aujourd'hui, mais il est attendu et il paraît qu'il va parler. Il pourrait s'exprimer sur le sujet. Pour l'instant, les choses n'ont pas encore très claires.
Xavier Couture, la laïcité, cette thématique rattrape chacun des présidents de la République, au fond
Par nature, parce que la laïcité, elle rejoint les problématiques qui sont posées par l'intégration d'un certain nombre de populations dont on voit que les extrêmes posent problème. C'est ça, en fait. Il y a une espèce de chemin qui mène de la laïcité à l'attentat. Et ça, c'est un chemin qui est extraordinairement périlleux, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il ne faut pas confondre les manifestations accessoires. Je conviens évidemment de ce qu'a dit Sophie de Menton. Il faut faire très attention au statut des femmes, particulièrement dans des populations ou dans des communautés qui ne sont pas toujours respectueuses de la femme, et je souscris à ce qu'a dit Sophie de Menton, mais je crois qu'il faut éliminer de notre discours tout ce qui est stigmatisant par nature.
On ne les stigmatise pas en France.
Quand vous dites, Sophie, le voile est la manifestation claire de l'asservissement des femmes, vous mettez une grande partie de la population à l'écart et vous créez les conditions du conflit. Et c'est pour cela que
Elle cache ses cheveux, elle se cache. C'est ce qu'elle vous explique. J'ai eu une entreprise où j'avais des femmes voilées. Mon entreprise avait des femmes voilées. J'ai eu le problème de femmes voilées qui ne prenaient pas l'ascenseur quand il y avait un client. J'ai connu ça, c'était il y a longtemps, plus ça commençait.
Vous faire l'amalgame. Et puis il y a les femmes voilées qui prennent l'ascenseur normalement.
Non, mais
c'est cet amalgame sur lequel je
je récuse ce discours. Parce que le voile, considéré comme un agent
d'asservissement
unique des femmes...
D'accord, tout
est voilà, grades.
Mais elles se cachent.
Quand vous parlez des petites filles qui, aujourd'hui, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on les mène à l'école trop tard. Quand on parle de l'asservissement des femmes qui est manifeste...
C'est un symbole, le voile. C'est un symbole.
Oui, c'est un symbole. La croix est un symbole.
Oui, mais si la croix devenait politique...
La croix est un symbole. C'est le symbole des croisades. Est-ce que vous croyez que...
C'est
la pause, Yasmina Jaffar, mot d'affin.
Les femmes salafistes, parfois, ne sortent pas du tout de la maison, en fait. Donc, quand elles accompagnent des enfants à l'école, c'est qu'elles ne sont pas totalement, totalement asservies.
Allez, dans la deuxième partie des informés de France Info, nous allons évoquer la situation avec la Turquie, la volte-face de Donald Trump, et nous refermerons ces informés sur Notre-Dame de Paris, 20h et 28 minutes sur France Info. Nous marquons une pause.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben, on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Notre filiale de matériel médical a de belles perspectives au Moyen-Orient. D'ailleurs, Yanis, notre technico-commercial en VIE, ne s'arrête jamais.
C'est vrai, les choses vont très vite ici, même la langue. Oui, votre commande est bien arrivée.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? En plus de profils qualifiés, avoir Business France à vos côtés est un véritable atout pour étendre votre réseau de distribution.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
Renseignez-vous au 0810 659 659. Coût de l'appel, 5 centimes d'euros, puis prix d'un appel local.
France Info Météo, avec Gauthier, fabricant français de meubles de rangement sur mesure, pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Pluie au nord et soleil au sud demain. De nouvelles pluies gagnent le nord-ouest ce soir et cette nuit avec du vent. Demain, ce temps concernera les régions de la Bretagne vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le bassin parisien, le centre, les frontières du nord. Ça soufflera jusqu'à 80 km à l'heure sur la Bretagne. En allant vers le sud, on trouvera du soleil. Il sera parfois voilé, surtout des Landes à l'Alsace. C'est autour de la Méditerranée qu'il brillera le plus. Notez que le vent d'ouest atteindra les 80 km à l'heure sur les côtes du Var à la Corse. Il fera 6 à 14 degrés le matin. L'après-midi, 15 à 20 degrés au nord, 15 à Paris, 17 à Reims et à Nantes, 19 à Besançon, au sud 17 à 23 degrés, 17 à Aurillac, 20 à Lyon, à Montpellier et les 23 degrés à Agen ou à Bastia.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Ils sont accusés d'avoir gravement blessé des policiers en jetant des cocktails Molotov dans leur voiture. C'était à Viry-Châtillon en 2016, il y a 3 ans. Le procès de 13 jeunes s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Essonne. Un procès qui se tiendra pendant près de 2 mois et à huis clos, Stéphane Père.
Ni journaliste ni public, mais un terrible face-à-face désormais à huis clos. Entre les policiers, victimes de ce guet-apens, et les 13 jeunes accusés, dont 3 comparaissent libres. Au lendemain des faits, l'enquête s'était largement heurtée à la loi du silence qui règne toujours dans la cité de la Grande Borne, à Grigny, dont sont originaires les accusés. Certains témoins avaient fait l'objet de représailles, d'autres avaient révisé leurs déclarations. Lors de l'enquête de voisinage, un peu plus de 1000 personnes avaient été interrogées dans la cité. Aucun témoignage n'avait alors été recueilli, ce qui n'avait pas empêché les enquêteurs de remonter jusqu'aux auteurs présumés de l'attaque. Devant la cour d'assises des mineurs, le huis clos s'imposait donc aujourd'hui pour pacifier les débats et éviter d'éventuelles pressions.
À Stéphane Père, 7 à 10 000 pompiers professionnels selon leur syndicat dans les rues de Paris. Cet après-midi, les soldats du feu qui dénoncent le manque d'effectifs et de reconnaissance d'une profession qu'ils décrivent comme livrée à elle-même face à l'explosion des demandes de secours et d'assistance. Des échauffourées ont éclaté en fin de cortège avec les forces de l'ordre place de la Nation. 3 policiers ont été blessés, 6 manifestants arrêtés pour violence et jet de projectiles. 3 personnes toujours en garde à vue ce soir dans l'enquête sur l'accident de manège mortel d'hier dans une fête foraine à Firminy dans le département de la Loire. Une nacelle a chuté d'une 15aine de mètres de hauteur après avoir percuté le bras d'un manège voisin. Une jeune femme de 23 ans a été tuée sur le coup. C'était hier soir. Son ami de 20 ans a été grièvement blessé. Selon le parquet de Saint-Étienne, la trop grande proximité entre les deux manèges neige serait en cause. Les choses qui s'accélèrent autour du Brexit, ou en tout cas en donnent l'impression, Michel Barnier, le négociateur pour l'Union européenne, déclare qu'un accord à l'amiable avec le Royaume-Uni est possible dès cette semaine, peut-être même dès ce soir. La France salue un élan positif et espère un dénouement dans les heures qui viennent. Annick Girardin, devant la commission d'enquête sur le chlordécone, la ministre des Outre-mer reconnaît que la responsabilité de l'État est engagée dans cette affaire. Ce pesticide est utilisé pour lutter contre une maladie du bananier. Il serait à l'origine de cancers de la prostate très nombreux aux Antilles où il était utilisé. Médecins sans frontières, de son côté, évacue ses équipes du nord-est de la Syrie en raison de l'extrême volatilité de la situation, explique l'ONG française. Après Paris, Londres suspend ce soir à son tour les exportations d'armes vers Ankara, dont l'offensive contre les forces kurdes a déjà provoqué l'exode de 160 000 personnes, d'après les chiffres des Nations Unies. Il est 20h33 sur France Info, les informés, deuxième partie, Jean-François Aquili.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec nos invités, Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Ilia Spina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com. Vous avez participé à l'ouvrage collectif « Comprendre la culture numérique » vient de publier Duno. Avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, qui défend aujourd'hui son opération « J'aime ma boîte ». Avec Xavier Couture, consultant audiovisuel. Nous allons évoquer longuement la situation donc de cette offensive qui se poursuit bien évidemment de la Turquie dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes. Mais il y a eu cet incident hier soir au Stade de France, le salut militaire des footballeurs turcs après le but d'égalisation face à la France. Pourquoi ce salut militaire n'était-il pas déplacé? J'ai posé la question tout à l'heure à Ismail Aki Moussa. C'est l'ambassadeur de Turquie en France qui était l'invité du 1850 France Info.
Je crois que là, on fait de polémique pour une raison très simple. Là encore, j'avais prévu un peu votre question. Vous voyez?
Oui, c'est le salut de Griezmann, c'est ce que vous avez
Griezmann,
argumenté.
Ça c'est légitime, on l'a fait. Un footballeur français aussi a fait le salut militaire, comme on dit.
Pour vous, c'est un partout, la balle au centre.
C'est la même chose.
Xavier Couture, c'était des éléments de langage préparés. Hein. Le ministre turc des Sports était allé chercher cette photo d'Antoine Griezmann qui avait fait ce salut militaire devant Emmanuel Macron.
Alors, il avait ce moment d'une remise de décoration, je crois qu'on lui remettait la Légion d'honneur, et pour, entre guillemets, jouer... je pense avec les symboles de la force et de la Légion d'honneur et de son aspect militaire, il avait salué le président de la République avec ce salut militaire. C'est incomparable avec ce qui s'est passé hier.
Qu'à l'époque la France n'avait pas envahi de quelques pays.
Hier, c'est ce qui se passe. Il se passe que on fait le problème, ce ne sont pas les joueurs de football. Les joueurs de football sont des jeunes hommes appartenant à un pays en guerre. Ils viennent à l'occasion d'un match, ils égalisent à quelques minutes de la fin du match et ils ont par réflexe de solidarité à l'égard de leur pays, ils ont ce geste. Je le désapprouve en tant que tel, en tant que manifestation de l'ordre politique dans un match de football, même si le sport est un simulacre de la guerre et qu'on pourrait s'interroger sur les Jeux Olympiques et sur un certain nombre de manifestations sportives où le politique a rattrapé. Ça va de Munich à Moscou en passant par Los Angeles où à chaque fois les politiques et beaucoup d'autres événements. Et je rappelle que d'ailleurs tout le monde s'est couché devant Hitler puisqu'il l'a refusé de serrer la main de Jesse Owens, et ça n'a pas empêché les différentes nations qui étaient présentes de ne pas se retirer des Jeux Olympiques. Oui. Passons. Aujourd'hui, il y a cette manifestation. C'est incomparable avec le geste de Griezmann. Je pense que dans l'état actuel de la diplomatie internationale, le fautif, s'il y en a un, c'est pas le joueur de football turc, c'est l'organisateur, c'est l'UEFA. Je doutais bien qu'à un moment ou un autre, il y aurait une manifestation qui pouvait être contestable.
Je pense
qu'il y a une irresponsabilité des organisateurs.
Non, mais l'irresponsabilité, fallait-il autoriser ce match?
Fallait-il autoriser ce match?
C'est le vrai sujet. Moi, je pense que c'est vrai que le sport, on est d'accord, c'est apolitique. La preuve que ça ne l'est pas complètement. Je suis d'accord, ça peut être une guerre. Mais je trouve scandaleux de dire, ah ben non, on peut se distraire quand même, on écoutait des Turcs très sympathiques qui avaient envie d'aller au match, qu'on comprend très bien, mais je veux dire, du pain et des jeux, il y a des limites à tout, et je trouve qu'aujourd'hui, quand il y a des gens, des Kurdes, qui souffrent avec des martyrs là-bas, ce match était déplacé.
Il y a, sauf que les des
symboles tout à l'heure. Moi, je suis désolée, je suis un peu sensible aux symboles, c'est vrai. Et je trouve que par respect pour les Kurdes, il aurait fallu pas jouer.
Non, mais je pense que tout le monde est d'accord sur ce sujet-là, y compris en France. Et je pense beaucoup chez les organisateurs. Moi, je pense que c'est tout simplement des questions économiques, financières qui ont joué dans l'affaire. Et puis, on peut le déplorer. Je le déplore. Mais voilà, les fêtes étaient là et le résultat un peu triste.
Yasmine Ajafar, sur cette rencontre de football qui s'est jouée. C'est vrai que cette guerre est en cours. Je ne citerai que l'exemple qui a été évoqué, notamment sur France Info, d'Avrine Kalaf, 35 ans, ingénieure féministe, qui co-présidait Avenir de la Syrie, parti politique qui réunit des Arabes, des Kurdes opposés au régime de Bachar, mais aussi à l'État islamique. Elle a été assassinée par des supplétifs turcs. C'est vrai qu'il y a une guerre qui est en cours. Est-ce qu'au fond, il faut en finir avec cette histoire de match de football et finalement la passer, cette rencontre à profits et pertes, ou est-ce que vous y voyez par-delà la rencontre footballistique un message très, au fond, très contradictoire?
Oui, en effet, il y a un message assez contradictoire. Je suis complètement d'accord avec l'idée que le sport et le foot est un lieu de lien social et en même temps de lutte antiraciste et de plein de choses qui se sont greffées autour du sport et que c'est devenu un objet et un outil politique. Mais en effet, les instances du foot auraient dû réagir, sanctionner. Alors ça s'est fait à la fin du match, donc on pouvait pas l'interrompre. Mais en tout cas, pour les prochaines rencontres, agir parce qu'on le savait déjà. On n'était pas vierge de cette attitude. On savait que ça allait arriver. Et le manque d'anticipation prouve que l'argent a joué un grand rôle dans cette affaire.
Sophie Drevinel.
Et si je puis me permettre une forme de rapprochement, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'affaire, il y a de l'impuissance. Et cette impuissance, elle est un peu, elle marque ce conflit. Notre impuissance, l'impuissance de beaucoup face à ce qui se passe. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus triste.
Alors, on est dans un monde footballistique avec une instance qui est l'une des plus puissantes de la fédération internationale qui s'appelle l'UEFA, Union Européenne de Football Association, dont la Turquie fait partie. De la même manière que la Turquie fait partie de l'OTAN. De la même manière que la Turquie aujourd'hui a sur son territoire des bases américaines que M. Trump ne veut surtout pas fermer parce que c'est des grandes oreilles qui lui permettent d'écouter l'Orient.
Mais
donc
c'est
tout
absurde.
Ça, si on mélange tout ça au fait qu'aujourd'hui, puisqu'on a décidé de ne plus livrer de lance-pierre à M. Erdogan, mais qu'on va laisser les Russes le faire à notre place, on est dans une situation absurde où la Russie fournit en armes un membre de l'OTAN, là où les membres de l'OTAN ne veulent plus fournir d'armes.
Et là où Trump
nous
dit
sommes dans
qu'il
une
veut...
confusion totale.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour le football ?
Cette démission fait que le football n'est qu'un élément tellement mineur de ce drame.
C'est symbolique, c'est la preuve.
C'est alors, un symbolique, un élément symbolique.
Il n'y a pas de symbole, là. Il faut aller sauver les Kurdes. Et on ne va pas se mettre derrière un symbole et mettre une fessée aux Turcs pour l'histoire de football pendant qu'on laisse crever les Kurdes. C'est ça le vrai sujet.
Transition toute trouvée pour parler de la volte-face du président américain Donald Trump. 20h40 sur France Info. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Jules Dekis.
Les associations anti-PMA annoncent 2 jours d'action partout en France pour le dernier week-end de novembre. Elles n'abdiquent pas après le vote ce soir à l'Assemblée nationale du projet de loi bioéthique. Les députés valident l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, tout comme la réforme de la filiation. Il sera possible de retrouver ses origines quand on est né d'un don de gamètes. L'enjeu actuel n'est pas de faire une loi sur les accompagnants scolaires, tranche Édouard Philippe. Le Premier ministre ne veut pas d'un nouveau texte sur la laïcité, notamment le port du voile lors des sorties scolaires. Il rappelle, alors que le débat refait surface, que la loi n'interdit pas de porter le voile quand on accompagne une telle sortie. Le chef de la diplomatie française annonce qu'il va se rendre bientôt en Irak pour discuter avec le gouvernement et les autorités kurdes. Au cœur des préoccupations de Jean-Yves Le Drian, la sécurité des prisons dans le nord de la Syrie où sont retenus environ 10 000 djihadistes. Les Occidentaux craignent des évasions, une résurgence du groupe État islamique après l'offensive militaire lancée par la Turquie contre les Kurdes. Une saisie de tabac de contrebande en haute montagne. Des passeurs surpris par une patrouille des douanes qui laissent sur place leurs marchandises. Cela s'est passé ce week-end dans les Pyrénées-Orientales. Les 800 cartouches de cigarettes et les 31 kilos de tabac à rouler saisis provenaient d'Andorre. Un tracé qui se cantonnera à la moitié nord du pays, cela fait jaser, mais beaucoup de montagnes et cela réjouit bon nombre d'amateurs. Les organisateurs du Tour de France ont dévoilé le parcours de la prochaine grande boucle qui partira de Nice le 27 juin.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je Changement de cap pour Trump qui a appelé Erdogan pour lui demander l'arrêt immédiat de l'offensive en Syrie et a décidé de sanctions contre la Turquie. Auparavant, sans rentrer dans le détail, je vous rappelle que le président américain avait débuté le dimanche en expliquant, au fond, avant l'offensive, que les Américains, les 1000 soldats US, allaient être retirés de la zone, ce qui avait semblé être une sorte de feu vert pour les forces turques. Je voudrais vous faire écouter ce qu'avait dit hier matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui était l'invité de France Info, à propos de la politique de Trump. Il a un adjectif incohérent.
Quand les États-Unis décident de retirer leurs troupes de Syrie, avec le risque, là encore, de retrouver des déséquilibres dans la région, c'est incohérent. Plus le monde est instable, plus on voit des menaces qui se précisent, notamment la menace terroriste, plus il faut que nous fassions preuve de cohérence dans nos positions et de cohérence entre pays alliés. L'intérêt des États-Unis serait davantage d'avoir une bonne relation avec l'Europe du point de vue économique comme du point de vue stratégique, plutôt que de semer des inquiétudes par des décisions incohérentes.
Sophie Dravinel, incohérent. C'est vrai que Trump, il y a 10 jours, retire ses troupes, puis ensuite il change d'avis. Il change de multiples reprises. Comment qualifier ces volte-face permanentes du président américain?
Je pense qu'aux États-Unis, beaucoup ont du mal à le qualifier, y compris dans son camp républicain. Et il est vrai, nous parlions de l'OTAN précédemment, qu'il y a cette espèce d'absurdité de voir que les États-Unis veulent détruire l'économie désormais de la Turquie avec des sanctions, des menaces, un accord commercial qui serait suspendu. Des hausses de droits de douane sur l'acier turc, etc., alors même qu'il y a l'OTAN en commun, et cette espèce de d'absurdité qui va surtout, quand on entend, je sais, aux États-Unis Trump dire que cette frontière à 11 000 km de chez lui lui pose moins de problèmes et moins dangereuse que celle du sud, il se trompe parce qu'évidemment c'est la résurgence de l'organisation de l'État islamique et que tout le monde va en payer les frais, lui compris.
Alors les fameuses sanctions de Donald Trump, notamment à l'égard de quelques diplomates ou ministres turcs, avec des saisies de biens, des interdictions d'entrée de territoire. Pour les Européens, il s'agit de sanctions pour des forages gaziers du côté de Chypre, des gels de vente d'armes, Xavier Couture, pas de quoi faire trembler le président turc Erdogan.
Je ne suis pas sûr que Donald Trump soit toujours incohérent. Je pense qu'il est incohérent dans ses propos, ça c'est certain, on ne comprend rien. En revanche, je pense qu'il est assez cohérent dans ses actes. La première chose, c'est qu'il a, vis-à-vis de son électorat, envie de rapatrier tous les militaires qui sont à l'extérieur de ses frontières parce qu'il a décidé de faire des États-Unis un sanctuaire, un pays qui n'est plus le gendarme du monde, il l'a dit, répété, pas plus là qu'ailleurs. Après, ces grandes sanctions contre la Turquie, j'attends de voir. Encore une fois, je répète qu'il y a des bases militaires qui sont plutôt des bases d'écoute, des bases stratégiques d'écoute que des bases réellement militaires en Turquie auxquelles il tient. Je ne pense pas qu'il veuille mettre M. Erdogan à genoux, même si M. Erdogan a d'énormes difficultés économiques et qu'effectivement, s'il y a un gros embargo économique sur la Turquie, ça pourrait effectivement précipiter sa chute. Mais je ne suis pas certain que, dans l'esprit de Trump, la chute d'Erdogan soit de même nature que son lien avec la Turquie. Donc tout ça est un jeu un peu compliqué sur le plan diplomatique.
Yasmina Jaffar ?
C'est vrai que Donald Trump, je pense qu'on a affaire à quelqu'un d'extrêmement contrarié. Même la chaîne Fox News, qui est censée le soutenir, révèle un sondage avec 51% des Américains qui seraient OK pour l'impeachment. Donc il y a aussi des anciens, comme l'ancien secrétaire d'État Rex Tillerson, qui a parlé contre lui. Donc il est contrarié, il parle à son électorat, ça c'est sûr et certain, et il se fiche un peu près de ce qu'il se passe très 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 loin de ses frontières. Et nous avons en face, nous, Emmanuel Macron, qui parle en permanence de Daesh et de la résurrection de Daesh, et on oublie d'autres personnes fondamentalement importantes, ce sont les Kurdes et le drame humanitaire qui se passe là-bas. Donc c'est un jeu politique international en oubliant l'essentiel.
Puisque vous évoquez l'organisation terroriste, Daesh, État islamique, justement, le Premier ministre Édouard Philippe a été interpellé sur la question, toujours lors de ses séances de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Ces décisions turques et américaines sont et seront très lourdes de conséquences. Parce que ces décisions remettent en cause 5 années d'efforts de la coalition. Ces 5 années de travail, de combat, sont remis en cause, nous le voyons, par la décision américaine. Nous voyons que le chaos qui va immanquablement, qui a commencé à apparaître compte tenu de ces attaques, va favoriser la résurgence de Daesh.
Sophie de Menton, c'est la menace qui plane désormais par-delà ce que subissent les Kurdes dans cette partie de la Syrie.
C'est évidemment une menace, mais j'ai envie de dire que, évidemment, je suis d'accord sur toute l'attitude de Trump, mais ça nous va bien quand même en Europe. Excusez-moi, on n'a pas été capable d'avoir des casques bleus européens, et moi j'en veux un peu à l'Europe. On est en train, à juste titre, de blâmer complètement l'attitude de Trump sur tous les plans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, moi je suis en train de voir ces Kurdes se faire massacrer. Je suis navrée. Quelle image de l'Europe! Et c'est ça qui m'importe. Alors c'est vrai qu'il y a la menace immédiate qui nous concerne et qui me fait peur, comme chacun d'entre nous. C'est vrai que Trump est instable. C'est vrai que ses réactions, heureusement qu'il change d'avis de temps en temps d'ailleurs, parce que ça peut être dans le bon sens aussi, mais je suis très inquiète, moi, de l'impuissance totale. Je veux dire, on interroge, on a des questions au gouvernement, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait?
Édouard Philippe a précisé qu'il y avait l'ambassadeur de Turquie a été convoqué, que le président de la République, donc Emmanuel Macron lui-même, a eu un contact avec M. Erdogan, que la France dit son désaccord fondamental pour la menace sécuritaire, etc. Évidemment, avec les Kurdes au milieu de tout ça, que personne n'oublie, même si dans notre conversation, on parle beaucoup de l'État islamique, évidemment, c'est un drame. Et puis surtout, moi, ce qu'il y a aussi, c'est cette volonté de la Turquie de vouloir replacer dans cette bande de terre assez, dans une bande de terre assez étroite, un ou deux millions de réfugiés syriens, et donc de transformer complètement ce paysage géographiquement, et les espérances du peuple kurde sont évidemment réduites à peu de choses.
Xavier Couture, sur cette bande, il y avait préalablement une majorité arabe. Enfin, c'est plus compliqué que cela. Les Kurdes n'étaient pas
tous dans cet espace-là. Mais disons que l'alliance avec la Syrie.
Xavier Couture, est-ce que l'on peut rester marié avec la Turquie au sein de l'Alliance Atlantique?
D'abord, l'Alliance Atlantique aujourd'hui, c'est quoi? C'est la question, on peut se la poser. Si on considère que le leader naturel de l'Alliance Atlantique est son créateur, c'est-à-dire les États-Unis, qui aujourd'hui sont partis vent du bas au sein de leurs frontières en éliminant toute possibilité d'être un véritable gendarme pour l'international, honnêtement, une organisation militaire hors États-Unis, elle repose sur quoi? Deux armées puissantes, à peu près puissantes, celle de Grande-Bretagne et celle de la France. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train de quitter l'Europe. Elle n'est pas, à mon avis, prête à se désolidariser des États-Unis. Reste la France, une armée allemande qui est quand même relativement faible, et puis d'autres armées à travers l'Europe qui ne sont pas de nature à pouvoir exercer sur le terrain un véritable contre-pouvoir à ce qu'est la domination russe sur le quartier, les difficultés terroristes qui sont liées, le fait qu'on peut envoyer des troupes à dose homéopathique, mais on ne peut pas faire la guerre, on ne saurait pas la faire. On a bien vu à quel point il est difficile déjà de résoudre le problème en Afrique et à quel point l'engagement salutaire de François Hollande en Afrique a été difficile.
Allez, voilà ce qu'on peut dire. Oui, encore un dernier mot avec vous, Yasmina Jaffar, allez-y.
Pour dire aussi que ce n'était pas évidemment dans notre intérêt immédiat d'aller défendre les Kurdes contre... Ça rappelle un petit peu quand Obama nous a laissés seuls
face à Bachar al-Assad.
Voilà, c'est un peu ça. Donc quand il n'y a pas d'intérêt immédiat, on ne va pas non plus aller...
Un dernier point juste pour dire quand même que les États-Unis laissent un peu cette région en fait en déshérence diplomatique, tout simplement... Entre autres parce qu'aujourd'hui, le premier producteur de pétrole du monde, c'est les États-Unis, et qu'ils sont moins dépendants de cette zone sur laquelle ils ont veillé comme le lait sur le feu, parce que ils en étaient économiquement dépendants. Ils ne le sont pas en ce moment.
Allez, 20h50 sur France Info. Dans un instant, nous évoquerons Notre-Dame de Paris, 6 mois après. Pour l'heure, rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Les députés donnent leur feu vert au bracelet anti-rapprochement pour lutter contre les féminicides. Vote à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale ce soir. Le texte doit passer rapidement au Sénat pour une entrée en vigueur au début de l'année prochaine. Le dispositif téléphone grave danger pour passer des appels d'urgence est élargi et sera facilité. Il n'y a pas eu d'évasion majeure de détenus du groupe État islamique à ce stade, d'après un haut responsable américain. L'offensive turque contre les Kurdes au nord de la Syrie fait craindre une résurgence de Daesh aux Occidentaux. Elle est même inévitable, selon le Premier ministre français Édouard Philippe. Les Européens demandent une nouvelle réunion d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette crise sécuritaire et diplomatique qui a des conséquences dans le monde du sport avec les saluts militaires lancés par les joueurs turcs hier au Stade de France. L'UEFA, l'instance qui gère le football européen, annonce ce soir ouvrir une enquête disciplinaire contre la Turquie. La colère des pompiers face à la hausse de la violence lors de leurs interventions. Ils demandent plus de moyens et une hausse de leurs primes et ils l'ont crié dans les rues de Paris. Un cortège de plusieurs milliers de personnes qui s'est dispersé avec quelques tensions ce soir, place de la Nation. Et puis le maire de Donges, en Loire-Atlantique, roulait sans permis depuis 8 ans. Il est condamné à 250 euros d'amende et un stage de sensibilisation après un contrôle routier par des gendarmes à Saint-Nazaire. Il reconnaît avoir été négligent. Il dit s'être inscrit pour repasser le permis de conduire.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Que dites-vous, Xavier Couture, sur ce maire sans permis?
Je constatais qu'un maire qui roule sans permis depuis 8 ans est condamné à 250 euros d'amende.
Il bénéficie d'une certaine tolérance.
Je ne sais pas si c'est dans le cadre
ça
de la loi.
Ça me semble très léger. Non.
Mais pour reprendre le début de notre discussion, décidément, la loi est parfois étrange.
À géométrie variable. Notre-Dame de Paris, 6 mois après l'incendie, où en est le chantier? Il y a deux risques, a expliqué ce matin l'architecte en chef de Notre-Dame, Philippe Villeneuve, qui était l'invité de RTL.
On a deux risques. Le premier, c'est cette gigantesque structure d'échafaudage qui est là depuis 6 mois, qui a résisté à l'incendie, à la chaleur, à la déformation, au choc. Donc là, on frémit un petit peu parce que les températures vont baisser, le vent va commencer à s'agiter. Toute la cathédrale a été constellée de capteurs afin de vérifier toute évolution possible de déformation, de mouvement des voûtes, parce que les voûtes, c'est le deuxième élément qui peut toujours s'effondrer. On ne connaît pas l'état exact et réel des voûtes.
Sophie Ravinel, elle est fragile, cette dame?
Mais oui, elle est fragile, elle était belle, elle reste belle, mais elle est extrêmement fragile. Elle est toujours dans cette urgence impérieuse qui était celle après le 16 avril au matin. Elle reste extrêmement fragile. Là, évidemment, on parlait du froid, c'est le gel. Et pourtant, eh bien, elle est paralysée, cette belle dame. Et elle est paralysée parce que pour l'instant, il y a une de nos, il y a un très bon papier que je vous recommande dans le Figaro écrit par Claire Brandmer sur justement vous cette paralysie du chantier, très compliqué.
Sophie de Menton, 922 millions d'euros promis pour ce chantier du siècle, 104 millions d'euros déjà versés par les donateurs qui sont au total de 350 000 donateurs donc.
700 millions par le secteur privé, par les entreprises, il faut le saluer. 900 millions au total, comme quoi l'argent ne fait pas tout. Le président de la République avait dit on va reconstruire ça en 2 ans. Le début des travaux, c'est pas
avant. 5 ans. 2 ans, ne soyons pas trop.
Alors 5 ans, on a encore des chances, peut-être?
Non, je crois pas. Justement, c'est ce que je
On a la difficulté des travaux, certes, mais au-delà de ça, il y a quand même une certaine pesanteur. Je sais qu'il y a eu des dysfonctionnements, en particulier, il y a eu l'histoire du plomb.
Il y a eu quand même 300 tonnes de plomb
qui
ont fondu,
qui reste un vrai sujet.
L'inspection du travail est très
très présente et les ouvriers disaient que, par exemple, ils étaient obligés de prendre des douches à chaque fois qu'ils quittaient le chantier pour aller se laver les mains, pour dire ça avec pudeur, 7 fois par jour, c'était complètement fou. Donc on a fini, c'est le ministre de la Culture qui a fini par installer les douches à l'intérieur de la zone pseudo-contaminé, qui ne l'est pas vraiment, heureusement. Donc c'est vrai que c'est terriblement compliqué sur tous les plans.
Yasmine Jaffar, il y a 6 mois, on parlait d'un délai de 5 ans, donc il reste 4 ans et demi, 6 mois,
oui,
si
oui,
le calcul
oui,
est bon.
Oui.
Ça vous paraît raisonnable?
Non, il y a 6 mois, c'était déjà pas raisonnable. C'était,
on pas raisonnable, sous parce que là c'est, non, 5 ans. Selon l'architecte, ça paraît possible, oui.
Je sais pas. Il y a peut-être une volonté de paraître beau avant les JO, mais en tout cas, non, 5 ans, ça paraissait un peu étrange vu la grandeur du projet. On se rend compte en effet qu'il y a des diagnostics qui sont faits autour du plomb qui font que la reconstruction totale ne pourra exister qu'à partir de 2021. Et il y a aussi un autre dommage collatéral par rapport à ça, ce sont les licenciés. Il y a 38 personnes licenciées.
C'était un petit peu, hélas, inévitable parce que ce sont des personnes qui étaient en chômage technique et que le diocèse de Paris a pu financer jusqu'au 31 août dernier.
Exactement.
Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un
plan
social, la mettre
un
en
plan
place.
Social,
Xavier Couture, la symbolique de Notre-Dame de Paris, à vos yeux, elle reste toujours très forte dans le cœur des Français?
Je crois que les images qui ont été partagées par tous les Français qui ont regardé l'incendie ne peuvent qu'effectivement raviver l'esprit, l'idée que c'est un monument symbolique. On parlait tout à l'heure des symboles, il est d'une puissance, ce symbole, absolument extraordinaire. Moi, ce qui me frappe dans ce qui est en train de se passer, c'est que bien souvent, lorsque l'État est confronté à ce type d'événement, il n'arrive pas à instaurer une véritable transparence. Et donc, on apprend les informations un peu comme ça au compte-goutte. On a le sentiment que on n'arrive pas à tout mettre sur la table. Depuis le début, moi, j'ai parlé avec effectivement des architectes qui nous disaient il y a un risque évident sur l'ensemble de cet espace de pierre qui a été chauffé à un niveau dont on ne sait pas quelles sont les réelles conséquences.
Vous avez vu le buzz à chaque fois qu'on annonce quelque chose? C'est terrifiant. Est-ce qu'il faut le mettre sur la table?
Non, mais. Bah oui, je pense. Je crois que le plomb, en tout cas, il a été mis tardivement et les risques qui demeurent sur les arches, à mon avis, doivent être aussi mis sur la table. Je pense qu'on a le droit de savoir.
Allez, en tous les cas, le ministre de la Culture, M. Franck Riester, a fait un point sur les travaux aujourd'hui, 6 mois plus tard, et c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir où nous en sommes. Il est temps de conclure, Sophie de Menton, votre tribune dans Challenge est consacrée à votre opération J'aime ma boîte.
C'est pas mon opération, ce sont les Français qui aiment leur... Oui, ce sont les Français qui aiment leur boîte et qui le disent. 400 000 entreprises qui font la fête. Franck Riester qui parraine l'opération parce que le thème en est la culture d'entreprise. Et une bonne nouvelle quand même, Jean-François, c'est que dans ce monde international qui va pas bien, l'Angleterre, le même jour, a décidé de faire My Company is Great et de lancer J'aime ma boîte le même jour en Angleterre.
Avant le Brexit, donc c'est très bien.
Pour surmonter le Brexit. Oui.
Sophie Dravinel, la une du Figaro.
Alors nous, on se partage entre le débat sur le voile qui a fait rage chez nous, qui fait pareil. Le lancement, du réveil des candidats à la candidature à la présidentielle de 2022.
Oh là, c'est encore tôt. Yasmine Achatar,
très rapidement. La Russe Média propose une très belle interview de Driss Ait Youssef, le président de l'Institut de Vinci et spécialiste de sécurité. Et on parle en effet aussi beaucoup du voile.
Régulièrement invité dans ces informés de France Info. Merci à vous également, Xavier Couture. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour
une prochaine édition. Nous avons une Coupe du Monde de rugby en 2023, 4 ans après celle qui se déroule. Et que dimanche, dans le journal du dimanche, il y aura le manifeste de ces Coupes du Monde 2023. Je recommande la lecture de ce manifeste qui pose ce sport comme étant un véritable acteur social.
C'est le mot de la fin. Merci à vous, bonne soirée.